Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h44, Yves Calvi, votre invité est Alexis Corbière.
Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Alors qu'un accord pour une candidature unique entre Benoît Hamon et Yannick Jadot est en train de se profiler, vous continuez de dire non ?
Non, justement, je dis, on dit non à du moins à une discussion. Nous sommes vendredi et mercredi, à l'occasion d'un grand meeting qu'a fait Jean-Luc Mélenchon à Strasbourg, Jean-Luc Mélenchon a dit des choses fortes que vous avez peut-être entendues.
Ben oui, il a dit je suis d'accord pour qu'on se mette ensemble, mais c'est moi qui serai le candidat.
Non.
Je me suis mépris.
Ouais, précisément. Je sais pas comme ça que les choses ont été dites. Précisément, ce que nous avons dit, c'est qu'il était temps de mettre bon ordre dans une espèce de confusion et de désordre. Parfois médiatique, pardon de jeter la pierre dans vos jardins, suite à la situation où Benoît Hamon avait été désigné candidat vainqueur de la primaire du PS, avait dit dès demain je contacterai Jean-Luc Mélenchon, et puis rien ne venait, pas d'appel, rien, c'est singulier quand même. Jean-Luc Mélenchon avait dit prêt à prendre un café, à discuter, rien ne vient, nous avons fait une vidéo dans laquelle nous disions certains points. Donc,
il a même fixé des dates, Jean-Luc Mélenchon.
Voilà,
mercredi,
Jean-Luc a dit bah, on va se rencontrer, il a un agenda un peu chargé, comme sans doute Benoît Hamon, il lui a dit écoute, vendredi, samedi et dimanche prochain, c'est-à-dire dans une semaine, je te propose de nous rencontrer. Et je peux vous annoncer d'ailleurs à ce micro que depuis la proposition de Jean-Luc Mélenchon, contact a été établi entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc a décidé même de mettre sur papier ce que nous avons dit à l'occasion de ce meeting à Strasbourg, par écrit. Cette lettre a été envoyée à Benoît Hamon. Voilà. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe exactement ?
Excusez-moi, ça peut paraître artificiel. La question c'est, il se voit quand pour se dire quoi ?
Ben, je crois.
Et est-ce que ça vous intéresse vraiment ? Voilà.
Mais ce que nous disons, c'est qu'il s'agit aujourd'hui d'abord de bien comprendre le moment politique dans lequel on est. Le parti qui dirige, c'est le Parti Socialiste, d'accord ? Mmh. Qui a fait beaucoup de dégâts. Donc, il s'agit d'avoir des garanties quand on veut discuter avec des gens sérieusement. Des garanties que le coût du discours du Bourget, pardon de le dire comme ça, c'est-à-dire le fait que des belles paroles avaient été dites par François Hollande, qui sonnaient bien à nos oreilles, n'ont absolument pas été respectées. Donc si, Benoît Hamon, candidat du Parti Socialiste, veut engager une discussion, notamment avec nous. Nous, on dit certaines petites choses. Quelles sont les garanties ? Notamment, est-ce que Benoît Hamon souhaite avoir pour candidat aux législatives les mêmes candidats qui étaient ceux qui sont reconduits depuis 2012 ? Est-ce que les personnalités ministres du gouvernement de François Hollande sont les candidats, par exemple, de Benoît Hamon ?
Alors, votre position, là, pour l'instant, en l'occurrence, elle est
très claire. Et quel est le programme, également, de Benoît Hamon ?
J'y viens tranquillement, mais de qui ne voulez-vous pas, si je puis dire ? Où vous tracez la ligne dans ce qu'il est possible d'envisager dans une éventuelle réunion avec les socialistes, pour dire les choses simplement ?
Mais ce qu'il faut, c'est faire un effort de cohérence vis-à-vis de la population. Si, une fois de plus, des gens qui ont été ministres, notamment ministres actuellement, qui sont des personnalités qui se sont engagées clairement en faveur de la loi El Khomri, qui a été rejetée par l'ensemble de la population, quelle que soit mon opinion personnelle et celle de Jean-Luc Mélenchon, vous ne ferez pas croire à la population que ces gens-là, désormais, ont changé d'opinion. C'est hypocrite. Cela ne créera aucune dynamique populaire. Nous ne voulons pas d'accord d'appareil. Ce sur quoi nous sommes disponibles, c'est dire il faut continuer dans la voie, notamment que nous avons incarnée pendant des années, qui dit mettre un terme à la monarchie républicaine de la Ve République, passer en Sixième République. Nous, on propose, et c'est pour nous fondamental, convocation d'une assemblée constituante. Dire non au traité européen actuel. Aujourd'hui, en finir avec cette politique d'austérité, etc., etc. Ça ne peut pas être dit par des gens qui viennent de dire l'inverse depuis 2012.
Donc, El Khomri, apparaît... Marisol Touraine,
oui, les ministres,
Valls, oui, enfin voilà, toute la ligne Hollande, finalement, qui incarne vraiment le quinquennat, le quinquennat, c'est pas possible.
Avouez que ce serait totalement hypocrite que ces gens-là viennent devant les Français en disant « Votez pour nous, pour faire l'inverse de ce que nous avons fait ». Ce serait une opération d'un cynisme politique qui désamorcerait toute chose. Et j'espère que même Benoît Hamon ne comptait pas faire croire que Mme El Khomri doit être élue pour abroger la loi El Khomri, que M. Valls doit être élu. Donc là, il y a quelque chose qui est au-delà de... On va voir, mais qui est un exercice. Vous savez, les Français ne veulent pas être pris pour des imbéciles. Ils ne veulent pas qu'on se paye leur tête. C'est une question fondamentale.
Non, mais s'ils sont de gauche, ils ont peut-être envie d'une victoire. Et donc, je vous pose la question à l'envers, Alexis Corbière. Je vous pose la question à l'envers. Mmh. C'est une fois qu'on a retiré ceux qui ne vous conviennent pas, et ça pour des raisons politiques que vous venez de nous expliquer, oui. Est-ce qu'il est possible, selon vous, de trouver un accord ? Et est-ce que vous en avez envie ? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon en a envie ? Vous savez, parfois, il paraît très heureux dans sa solitude, très entouré par ailleurs, parce qu'il y a du monde dans ses meetings.
Monsieur Calvi, j'ai un respect beaucoup pour vous, mais vous avez engagé la discussion en disant la candidature solitaire, il est heureux tout seul. On fait les plus gros meetings. C'est nous qui avons le plus de monde dans nos meetings. 250 000 personnes aujourd'hui sont engagées. On est le premier mouvement de France engagé dans cette campagne présidentielle. Mais je vois bien qu'il y a un thème qui vous passionne, de dire il est tout seul. Pour un homme seul, il est particulièrement bien accompagné. Et pour une force qui s'est levée dans cette campagne présidentielle, il fait quasiment jeu égal aujourd'hui, notamment avec ce qui vous semble par contre le grand parti socialiste. Observez tout de même que ce qui est la caractéristique de la période. Premièrement, c'est que le Parti Socialiste est au plus bas aujourd'hui dans l'élection présidentielle. Qu'aujourd'hui, un Français sur deux, quand on regarde les études d'opinion, n'ont toujours pas fait leur choix. Que j'observe même des études qui me disent que moins en moins de gens, ce qui est terrible, vont peut-être aller à l'élection présidentielle. Les gens sont dégoûtés. Si je veux remobiliser des gens, il faut que les gens voient d'abord quelle est la perspective et quelle est la cohérence. Ce que je veux dire, c'est que quand même sur un coin de table, avec Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, on ferait quelque chose de cynique et manœuvrier. Ça démobiliserait les gens et ça ferait le jeu de la droite et de l'extrême droite. Donc on est ouvert, je termine parce que je suis un peu long, mais je veux être compris dans le raisonnement. On est ouvert à toute proposition, à ceux qui veulent participer avec nous à une dynamique politique populaire qui n'est pas basée sur la base d'accords d'appareil, mais de propositions de fond et qui n'est pas une entreprise de recyclage de personnalités politiques qui pensent l'inverse. Voilà. Moi, je suis parfois troublé de faire des débats depuis quelques jours avec des gens qui se prennent comme porte-parole de Benoît Hamon, que depuis 2012 me disent l'inverse de ce qu'ils pensent, mais qui se prennent aujourd'hui sous une autre masque, c'est pas supportable. Donc voilà, on veut de la clarification et des garanties.
Dit comme ça, on peut le comprendre, mais en matière de recyclage, je me dois de vous faire remarquer que il se trouve que votre candidat, en l'occurrence, il a été socialiste
pendant
pas il y a 20 ans, mais pendant des années, ministre socialiste et qu'il a travaillé avec ces personnes-là.
Non, mais vous pouvez pas.
Je le dis autrement, pardonnez-moi. Il va peut-être falloir qu'un jour le règlement de compte permanent entre Jean-Luc Mélenchon et le Parti socialiste cesse et qu'on passe à autre chose. Pour construire.
Mais c'est troublant. Hein. Je vous dis, le seul qui prend un acte pour qu'on discute, c'est nous. Pourquoi le ton, de dire comme ça que vous avez vis-à-vis de nous, n'est pas le même que vous avez vis-à-vis des socialistes qui font un jeu de claquettes depuis 3 semaines, insupportable, de fausses unités, de fausses mains tendues. Voilà. Nous sommes les seuls aujourd'hui à discuter et à dire on va discuter sérieusement. Vous avez de la mémoire politique. Quand on discute politique, il faut être sérieux. Pourquoi sommes-nous la seule force avoir un programme, il s'appelle l'Avenir en commun, 357 propositions. Est-ce que ce document existe de la part du Parti socialiste? On est à 2 mois d'une élection, ce grand parti n'a même pas un programme. Avouez que c'est troublant. Donc moi, je vois bien la combine de gens qui sont à la ramasse, permettez-moi cette expression un peu familière, mais qui peut-être se disent on va faire un bon coup en faisant croire désormais qu'on va en quelque sorte dire la même chose que Mélenchon tout en le pensant pas, tout en quand on rentre dans le détail ne disant pas la même chose.
Écoutez, vous venez de me dire c'est très clair, on fait semblant de nous tendre la main.
Ça peut être l'impression qu'on a, et c'est la raison pour laquelle, depuis mercredi, Jean-Luc met bon ordre à tout ça. Si certains veulent discuter avec nous, ça va avoir lieu, mais on n'est pas, on a un peu d'expérience. C'est pas une affaire personnelle. Moi, ça n'a rien d'infamant d'être membre du Parti Socialiste. Moi, je suis heureux de la victoire de Benoît Hamon. Vous disiez tout à l'heure, il y a des tas de gens qui, notamment, se reconnaissent dans le Parti Socialiste et qui veulent sincèrement finir avec la politique de François Hollande. Mais je dis à tous ces gens, les amis, nous ne créerons de dynamique populaire à vocation majoritaire, alors qu'en plus, actuellement, c'est tout de même le Parti Socialiste qui dirige, que si ça se passe dans la clarté, la cohérence, et avec des garanties que cette fois-ci, on ne refera pas le coup du Bourget.
Une alliance est possible sur des bases saines. Si
oui, politique, bon sang, politique, mais ouais. Arrêtons, la com, elle est troublante cette élection de 2007. On est face à des gens, je n'évoque pas seulement Benoît Hamon, qui n'ont pas de programme. Alors c'est de plus en plus la mode. Voilà, on est à 2 mois d'une élection. Vous avez des personnages. Jean-Luc a fait un meeting en hologramme la dernière fois, mais les hologrammes, les vrais, c'est beaucoup de ces candidats. Coup de com', déclaration comme ça. On ne sait plus très bien de quoi on parle. Ils n'ont pas de programme. Et pour certains, peut-être qu'ils ne seront pas vraiment là jusqu'au bout. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Et les Français n'attendent pas ça. Moi, je prends les gens au sérieux. Et je ne veux pas faire croire des choses fausses.
Ce ne sont que des mathématiques, mais si on additionne les chiffres de Hamon, Mélenchon et Jadot, on arrive quasiment à 30%.
Tout à fait. Mais comme ça, c'est des mathématiques, vous l'avez dit. Mais la politique, si vous additionnez des choses incohérentes, vous détruisez tout ça. Et moi, je ne prendrai pas la responsabilité de détruire la possibilité qu'il y ait une majorité populaire pour le changement au prix d'un accord de table pour recycler politiquement des gens qui pensent l'inverse. Vous voyez, c'est une question d'honnêteté parce que dans ce moment de grand trouble, si on fait n'importe quoi, on donne les clés potentiellement peut-être à l'extrême droite ou à la droite dure. Donc il faut être sérieux. Et il y a aujourd'hui des gens disponibles, mais pas à se faire avoir.
Ou éventuellement Emmanuel Macron qui a créé une nouvelle polémique en considérant la colonisation comme un crime contre l'humanité. Est-ce que vous parleriez vous aussi de crime contre l'humanité concernant la présence française en Algérie?
Mais voyez, typiquement, c'est un coup de com'. J'ai entendu que le soir même, le porte-parole d'Emmanuel Macron dit qu'en fait, non, mais c'est pas vraiment ça qu'il faut entendre, pas crime contre l'humanité, qui est quand même un concept particulier.
C'est pour ça que je vous interroge.
Je suis historien, je suis contre la colonisation, évidemment. Il faut parler de choses sérieuses. Quand le soir même, on vous dit non, non, mais c'est pas ce qu'il voulait dire, c'est crime contre l'humain, et que quand on lit son interview dans le Figaro, effectivement, il revient là-dessus, c'est pas une bonne façon de prendre les choses. On va pas en Algérie pour dire quelque chose qui finalement engage une controverse ou vous reculez. Quand on est chef d'État, faut être un peu vertébré, notamment sur des sujets sensibles. Sur la question de la colonisation, moi je dis donnons la parole avant tout aux historiens. Je sais que vous l'avez déjà invité, je pense notamment à un des premiers d'entre eux sur la question de l'Algérie, Benjamin Stora, que les historiens fassent mémoire commune avec les historiens algériens, et notamment qu'on se tourne vers le futur. Ce que j'aime pas...
Vous venez de me dire que, pardonnez-moi, qu'Emmanuel Macron n'avait pas de colonne vertébrale.
Bah, à l'occurrence, écoutez, quand vous allez à l'étranger pour faire une déclaration au crime contre l'humanité, et que le soir même, votre porte-parole dit « c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire », avouez que c'est quand même pas quelque chose qui démontre une forme de rigueur. Tout de même, Emmanuel Macron est un homme cultivé. Crime contre l'humanité, qui est quelque chose de très précis, qui répond à des normes juridiques précises. C'est pas un concept qui se manipule comme ça. Même si, bien entendu, la colonisation était quelque chose qui est totalement condamnable, il va de soi.
Je ne veux pas qu'on se sépare sans que vous me disiez ce que vous estimez, vous, et très précisément, être la mesure, on va dire, la plus importante dans le programme de Jean-Luc Mélenchon.
Écoutez, je reviens à cette histoire de convocation d'une assemblée constituante pour en finir avec la Ve République. Voilà. Que ceux qui m'écoutent, peut-être même s'ils ne sont pas totalement d'accord avec nous, mais s'ils pensent effectivement qu'il faut en finir avec ce régime, notamment qui crée cette irresponsabilité, qui met cette distance avec le peuple, qui veut redonner des droits nouveaux aux citoyens, Jean-Luc Mélenchon est le seul à dire, si je suis élu, je convoquerai une assemblée constituante pour changer de constitution.
Vous avez raison, il est le seul à le faire, mais vous pensez que c'est vraiment un moyen de se projeter dans l'avenir? Enfin, bien sûr que le cadre institutionnel, il est important, je ne vais pas vous dire le contraire, mais la vie des Français, leur accès au travail,
j'entends bien, vous avez raison. Moi, je suis écologiste, je suis pour un autre partage des richesses. Mais ce qu'on a observé, c'est que ces institutions permettent de faire le coup de force permanent contre le peuple. La loi El Khomri, elle a été imposée par l'article 49.3. Aujourd'hui, vous avez le CETA, c'est dommage qu'on n'ait pas pu en parler, qui, selon moi, est un accord terrible, qui est dangereux pour notre agriculture.
Avec le Canada, je le rappelle.
Avec le Canada, qui s'applique d'ores et déjà à titre provisoire. C'est la première fois qu'on voit ça, c'est-à-dire que le Parlement européen l'ayant adopté, d'ores et déjà, ceux qui nous écoutent doivent savoir qu'il s'applique. Et le Parlement français n'est même pas consulté, donc il faut d'autres institutions plus démocratiques, et à partir de là, on pourra mettre en œuvre une politique sociale, écologique, faire croire qu'on peut changer les choses dans le cadre de ces institutions, et selon moi, une entourloupe. Donc, évidemment, derrière ça, le programme de Jean-Luc Mélenchon ne se limite pas à cette affaire. 357 propositions pour répondre à l'urgence écologique, sociale, mais d'abord changer le cadre de ces institutions.
Merci beaucoup Alexis Corbière, j'ai bien compris qu'il était possible de discuter, mais sur des basses scènes,
bah oui,
avec le reste de la gauche. C'est ce que vous venez de nous dire en direct sur RTL. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.